Chapitre 6. Icon avait en réalité son QG au sein même de Rosalind Franklin, sur Lux 1, et non parmi le labyrinthe de Lux 2, qui abritait les laboratoires, l'essentiel des bureaux et toutes les infrastructures d'observation scientifique. Icon gravitait tout d'abord autour d'une salle commune circulaire, équipée pour recevoir une cinquantaine de personnes assises face à face, écrans géants sur les murs et micros à chaque poste. C'était là que s'était retrouvé l'ensemble des membres sélectionnés, soit une petite vingtaine issus de 12 nationalités différentes. Emmett Lloyd, le vieux géant, devait s'adresser à eux pour expliquer ce qui était attendu. On venait de leur faire un rapide brief informel au petit-déj, et lui comptait entrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, ils allaient être mis au courant de ce que chaque pays avait bien voulu fournir comme données concernant Sphère, les observations initiales, via satellite notamment. Lux était pourtant opérationnel depuis 6 jours, des chercheurs déjà à bord, mais aucun n'avait eu l'autorisation de démarrer. Il fallait le feu vert de l'ONU, et pour cela, que chaque nation soit installée et assurée que l'information circulerait en toute transparence. La méfiance était telle que personne ne voulait laisser les autres commencer sans être présent. C'était ce qui avait permis à la station d'exister. Ce serait également sa faiblesse. Partant de ces données brutes, faute de mieux, Icon devrait constituer des cellules de réflexion qui allaient travailler sur toutes les hypothèses possibles, envisager des approches différentes et non conventionnelles pour interpréter les résultats. L'ensemble d'Icon les soumettrait à un collège d'experts qui retiendrait les plus pertinentes et les soumettrait aux chercheurs sur Lux 2. L'idée était de tout s'autoriser, tout tenter, même l'impensable. Nul ne pouvait affirmer ce qu'était Sphère, et s'il fallait sortir du cadre pour en percer les mystères, on attendait d'Icon qu'il propose des solutions pour le moins novatrices, sinon carrément folles. Bien sûr, pendant ce temps, Lux effectuerait son travail avec près de 350 savantes et savants selon les règles de l'art de leurs disciplines respectives. Un comité scientifique chapeauterait l'ensemble, synthétiserait les résultats pour organiser, garder une vision d'ensemble et rendre compte à l'ONU via son siège à New York. Tout le personnel d'Icon était rassemblé dans la grande salle ronde et attendait qu'Emmett Lloyd ait terminé de régler son micro. Zoé reconnut Ethan Gabriel, mais elle nota aussi la présence de Matteo Villon à l'écart. Puis Simon, assis un peu plus loin à sa droite. Leurs regards se croisèrent, et il lui adressa un sourire auquel Zoé ne répondit pas. Pas d'humeur. Et puis, elle n'était pas au clair avec lui. Pas encore. Simon la désarçonna en prenant sa tablette pour la tourner dans sa direction. Zoé vit un smiley qui occupait tout l'écran. Un smiley avec les coins de la bouche vers le bas, vaguement maussade. Simon pointa son doigt vers Zoé, puis vers la tablette, et il interrogea du menton. Zoé s'empara de sa propre tablette et afficha un smiley en colère qu'elle lui adressa. C'était un peu excessif, mais elle était prise de court et ne voulait pas qu'il s'imagine que tout était pardonné si simplement. Le raclement de gorge amplifié d'Emmett indiqua à tout le monde qu'il était prêt, et la petite assemblée se redressa attentive. Comme je vous l'indiquais, je vais vous dresser un topo rapide de ce que nous savons. Tout est détaillé, si tant est qu'on puisse parler de détails, dans le document qui va vous être remis dans un instant. Bien. Déjà, vous connaissez les faits. Sphère mesure 800 mètres de diamètre et son point le plus bas flotte à 1 km au-dessus de la surface de l'eau, soit peu ou prou 900 mètres juste là. Emmett pointa son index vers le plafond. Au centre de la pièce, le géant prit le temps de pivoter sur lui-même pour embrasser l'ensemble des participants de son regard malin à travers ses imposantes lunettes. Il arborait le rictus hautain, mais sans méchanceté de celui qui sait et s'apprête à dévoiler sa science. « Il n'y a aucune image satellite de l'arrivée de Sphère », démarra-t-il. « En tout cas, si les renseignements militaires en ont, ils ne nous donnent rien. Mais a priori, nous avons toutes les raisons de les croire. Des documents ont été fournis par la NSA, agence de renseignement américaine spécialisée dans l'information électromagnétique et numérique, le NRO, autre agence américaine spécialisée dans l'usage et le traitement d'informations depuis des satellites espions, et la NASA, sur toutes les entrées dans l'atmosphère connues durant les jours et semaines précédant la découverte de Sphère. Nada, que dalle. Idem du côté de l'Agence spatiale européenne ou de nos amis chinois. Sphère a été signalée pour la première fois le 16 octobre dernier par un cargo qui avait dévié des routes commerciales classiques. Les agences sont remontées dans leurs enregistrements pour vérifier ce qu'elles avaient dans ce secteur, et le NRO a donné des images assez larges de la zone, qui dataient de 6 jours auparavant. Il n'y avait aucune trace de notre chère Bouboule. Si cet engin est venu de l'espace, personne ne sait comment, ni quand. Nous avons des relevés sismiques qui sont proches ? Demanda une voix quelque part. Emmett ne prit pas la peine de chercher d'où ça venait et répondit. Bien sûr, pas sur cette zone très précisément, mais pas non plus très éloignée. Car, et c'est un sujet que nous n'avons pas abordé publiquement pour éviter de dévoiler notre position, vous n'êtes pas tout à fait n'importe où dans l'océan Atlantique. Murmure de circonspection. Emmett laissa passer son petit effet et reprit la parole. Nous sommes pile sur la ligne de l'équateur, à équidistance des pôles, pas à un degré nord ou sud, juste dessus. Et savez-vous ce qu'il y a sous nos pieds à 5000 mètres de profondeur ? La dorsale médio-atlantique ? Fit le voisin de Zoé, un type assez jeune, plus large que haut, cheveux bouclés et cul de bouteille sur le nez. Icon rassemblait peut-être des penseurs de l'extrême et des créatifs, mais de toute évidence, il y avait une certaine culture scientifique également. « Exactement !» approuva Emmett Lloyd en hochant vivement la tête. « Nous sommes au-dessus du point de divergence entre la plaque sud-américaine et la plaque africaine, cette force brute qui jaillit des profondeurs et qui agrandit l'océan Atlantique d'environ 2 ou 3 cm chaque année. La dorsale dans son ensemble court quasi du sud du cercle polaire arctique à l'Antarctique, soit 20 000 km de long. » Zoé n'était pas à son aise avec ses notions de géologie et, se moquant de ce qu'on pourrait penser d'elle, se pencha vers son voisin de droite, manifestement éclairé sur la question, et lui demanda tout bas. « C'est la tectonique des plaques, c'est ça ? J'ai jamais été sûre de piger. » « Oui. En gros, la surface de notre planète repose sur un assemblage de très grosses pièces mobiles, comme des morceaux de puzzle emboîtés qui bougeraient sur eux-mêmes à cause de la chaleur et des tensions dans les profondeurs. » Il y a des endroits où ça veut sortir, formant des lignes qui poussent certaines plaques dans une direction et donc à l'opposé, d'autres plaques se rentrent dedans, donnant naissance à des volcans, des montagnes, des rifts. Et quand ces plaques bougent brusquement, des séismes. La dorsale machin atlantique où nous sommes, c'est un peu comme la faille de San Andreas en Californie, un déclencheur de tremblements de terre. Non, San Andreas, c'est plusieurs plaques qui se frottent en sens opposé, c'est pour ça que ça bouge. Ici, elles s'éloignent l'une de l'autre, donc c'est plus calme. Du coup, il y a une sorte de trou qui se creuse dans la mer ? Plutôt de la matière qui ressort et qui pousse de part et d'autre, comme deux tapis roulants verticaux, collés l'un à l'autre, et qui remontent ensemble avant de partir chacun dans sa direction. Sous nos pieds, il y a des montagnes sous-marines. L'image était plus claire pour Zoé. Elle remarqua que beaucoup de regards se croisaient, et on commentait en comprenant que Sphère n'était pas arrivée n'importe où. 0 degré de latitude, et parfaitement alignée sur l'un des points de force les plus puissants de la planète. Cela traduisait une intentionnalité. Sphère avait visé. Bye bye la cause naturelle.
Sauf si c'est justement une émanation de la planète. J'ignore comment, mais s'il fallait que quelque chose sorte de la croûte terrestre. Ne serait-ce pas logique que ça émerge pile à mi-distance des pôles et par là où deux plaques cherchent à se séparer ? S'il y a une faille de la matière qui sort, alors pourquoi pas ça ?
C'était bancal. Mais pour l'heure, Zoé refusait de se brider. C'était le but, après tout. « Vous le savez peut-être, » reprit Emmett pour calmer les débats. « Cette dernière décennie, pour prévenir au mieux les risques sismiques et les tsunamis qui ne cessent de frapper, différentes opérations de surveillance ont été réparties aux quatre coins du monde. Il s'avère que notre dorsale médio-atlantique est justement sous monitoring. Des balises sismiques placées le long de notre crête à différents points enregistrent le moindre mouvement. Et il s'avère qu'il y en a une grappe à moins de 500 km d'ici, ce qui, à l'échelle géologique, n'est pas trop loin pour capter d'éventuels mouvements. Je vais vous décevoir. Rien d'atypique n'est ressorti. Pas de déplacement accéléré au cours des 6 derniers mois, aucun incident majeur. Et si on recule de 18 mois, c'est à peine plus agité. Ici, les plaques ne s'affrontent pas, elles se séparent. Donc peu d'accumulation de tension. Si quelque chose a jailli, ce n'est pas d'ici. Les balises l'auraient capté.
Autant pour moi et mon image d'une planète qui rejette sphère de ses entrailles.
Si c'est pas de l'espace ni des profondeurs, fit un homme dans l'assemblée. Alors, il reste l'air. Il y a eu une étude des déplacements aériens. Pour le coup, Zoé trouva la remarque assez peu pertinente. Si sphère était apparue dans l'air, c'était forcément qu'elle était auparavant entrée dans notre atmosphère. ce qui n'était pas le cas. Donc, pourquoi insister ?
La zone n'est commercialement pas exploitée à basse et moyenne altitude, informa Emmett. Les longs courriers n'ont rien remarqué, mais ils circulent à plus de 10 km de haut. Rien sur aucun radar, pas même ceux des marines de l'Atlantique Sud. Apparemment, un sous-marin britannique aurait circulé tout près du secteur peu avant le 16 octobre. Lui n'a rien enregistré non plus, mais il n'était pas en surface. Non, je vais aller droit au but. Nous ne disposons d'aucun outil qui aurait capté l'émergence de sphères. Nous ne savons pas précisément à quelle date elle est apparue, seulement qu'elle n'a pas bougé depuis le 16 octobre.
Zoé réalisa que c'était elle l'idiote. La question était pertinente. Sphère avait pu décoller de la surface même de la Terre, sauf que là encore, rien.
On sait de quoi elle est constituée ?
S'enquit l'homme qui ressemblait à Gandhi.
Pas encore. Les examens vont démarrer depuis Lux 2 dans les prochains jours. Mais maintenant que nous la voyons, les satellites n'ont pas fourni des données sur sa composition.
Non, ceux des agences spatiales sont braqués à l'opposé, vers l'espace, pas vers notre planète, et ne sont pas adaptés à l'observation de proximité. Quant aux agences de renseignement, malgré leurs équipements de pointe, elles n'ont rien fourni. Soit parce qu'elles n'ont rien, soit parce qu'elles continuent de privilégier le secret et ne veulent rien dévoiler de leurs capacités, soit parce qu'elles en sont incapables. Pardon si je froisse des égos patriotiques, mais il faut se dire la vérité. Toutes nos nations collaborent dans la limite du secret défense. Ethan Gabriel leva la main et prit la parole d'une voix de baryton et dans un anglais parfait.
Est-ce que Sphère émet des sons ?
Pas clairement audible, en tout cas, fit le docteur Emmett.
Mais là encore, une étude acoustique va être réalisée dès que tout le monde sera en place. Une feuille de route est en cours d'élaboration pour les prochaines semaines, certaines disciplines ayant des contraintes particulières, pas toujours compatibles avec d'autres. Nous sommes en train d'organiser tout cela. Tous veulent être prioritaires. Comprenez que ça va demander un peu de doigté. Les résultats vous seront transmis au fur et à mesure. Il faut patienter. D'ici là, cela ne vous empêchera pas de cogiter à quelques propositions, j'en suis sûre.
Vous attendez vos premières productions dans quel délai ? S'inquiéta une femme quelque part.
Le docteur Emmett Lloyd retira ses lunettes pour les nettoyer soigneusement avec sa chemise et répondit
« Prenez d'abord le temps d'absorber les informations. Il y en a peu pour l'heure, mais ça viendra. Vous n'êtes pas là pour pondre de la copie, mais proposer des approches innovantes. Donc soyez observateur, patient, et ensuite dissertez entre vous pour arriver à une ou des idées fortes. Vous n'êtes pas à l'usine. Nous ne cherchons pas la productivité, seulement la réactivité. Le comité exécutif n'exige aucun rendement. »
Le silence était retombé dans le petit hémicycle. Emmett Lloyd les scruta toutes et tous, amusés.
« Notre tâche est la plus sérieuse qui soit. Au nom de notre espèce et de l'histoire, c'est pour ça qu'il faut la mener avec le plaisir qu'aurait un enfant à jouer. Restez ce que vous êtes. Individuellement. Des êtres uniques et collectivement des humains. »
Il les gratifia d'un large sourire malin, puis s'écarta pour laisser place à une brune dont les longs cheveux étaient parsemés de mèches argentées, lui conférant un air à la fois sage et rock. Elle portait une blouse blanche ouverte sur un sari.
« Je suis la professeure Itishri Kapoor. Je serai votre autre référent avec le docteur Lloyd. » Nous avons préconstitué des groupes de travail auxquels vous serez affectés. C'est une base, rien n'est figé. Vous pouvez nous soumettre des demandes d'affectation différentes, bien sûr.
Itishri distribua à chacun une synthèse de ce qu'avait énoncé Emmett et un document qui expliquait comment les cellules d'Icon avaient été formées. 4 en tout. 5 membres en moyenne par cellule.
Nous sommes ensemble, fit le gars à sa droite, celui qui avait expliqué à Zoé la tectonique des plaques. Elle se trouvait dans la cellule 3, mais ne connaissait aucun des autres noms. « Comment vous savez qui je suis ? » s'étonna-t-elle.
Le type leva son propre badge, qui remontait haut sur son ventre généreux. À côté de sa photo d'identité apparaissait un nom en gros. « Ronald P. MacDonald. »
« J'ai lu votre nom en arrivant. J'ai une bonne mémoire. Je vous préviens, si vous faites une blague sur le mien et mon physique, je me vexerai. Je préfère être direct afin que nos relations soient bonnes. Appelez-moi Ronnie. »
Zoé apprécia la franchise. Lui continua sur sa lancée.
« Je suis scénariste et comédien. Mon truc, c'est plutôt la science-fiction ou les séries d'anticipation.
J'aime baser mon travail sur des prémices très documentées, voire scientifiques. C'est certainement la raison de ma présence. J'ai vu que dans notre groupe, il y a Belle Simmons. Ça va pas être possible. C'est une artiste plasticienne, entre autres. Je la connais. Outre que je n'assume pas de figurer à côté d'une fille qui s'appelle Belle, c'est une facho maga aux idées arrêtées. Elle ne devrait pas être à bord. J'imagine qu'elle doit avoir un apport créatif important pour avoir été sélectionnée. C'est une conne, croyez-moi. Vous avez une idée pour qu'on la remplace ? Quelqu'un que vous connaissez ? Zoé devinait qu'il était inutile de vouloir le modérer. Ronny était déterminé, et cela ne laissait pas présager du meilleur quant à sa capacité à transiger. Zoé regarda l'assemblée qui bavardait en découvrant qui serait avec qui, et tomba sur Ethan Gabriel, seul, plongé dans sa lecture. « Je crois, oui.